Parfait. Bonsoir à chacun, chacune. Ça fait plaisir de partager avec vous ce soir ce sujet de vie, justement, parce qu'on le verra. C'est un sujet qui s'adresse à nous tous et à nous toutes. Et puis, pour commencer cette soirée, ce que je vous propose, c'est un petit plan qu'on va suivre durant toute la soirée sur ce thème des proverbes. On va faire quelques rappels sur les proverbes, c'est toujours important, je sais que ça a déjà été fait par les uns ou par les autres, mais c'est vraiment un livre tellement riche, ça vaut la peine de nouveau de s'y repencher. On parlera en particulier, c'est le thème de ce soir, du juste, mais il y a aussi beaucoup de versets qui parlent du méchant, et on s'arrêtera aussi sur le méchant, on en dressera un portrait, on regardera quels sont les contrastes entre le juste et le méchant. On se posera la question finalement à l'aide du livre des Proverbes lui-même, hein, pourquoi vivre justement? Et puis enfin, on se posera la question, mais comment vivre justement aujourd'hui? Parce que les Proverbes sont un livre qui a été écrit particulièrement pour l'instruction du peuple d'Israël, et comment est-ce que nous, croyants post du Nouveau Testament, après le Nouveau Testament, est-ce que nous pouvons prendre ces passages pour nous? Donc voilà un petit peu le menu que je vous propose. Quelques rappels sur les proverbes. C'est important de préciser, c'est un livre qui est particulier. Je vous défie d'en faire une étude chapitre par chapitre, à part sur la fin ou sur le début, où il y a des thèmes vraiment qui apparaissent. Parce que c'est vraiment un livre poétique et puis qui comporte un certain nombre de particularités. Les Juifs le classent justement dans les livres poétiques de l'Ancien Testament avec Job, les Psaumes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Les Proverbes sont donc le cinquième livre poétique de l'Ancien Testament. Qui sont les auteurs des proverbes? Alors, en suivant le plan de ce livre des proverbes, on arrive un petit peu à déterminer qui sont les auteurs. On verra plus dans le détail après, mais il est parlé de Salomon, il est parlé des sages, il est parlé d'Agur et de Lemuel comme étant les auteurs des proverbes. Dans le détail, si on prend le plan des proverbes. Et je vous invite à ouvrir justement le livre des proverbes, bon, premier chapitre. Donc, l'auteur se présente au premier verset, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Donc, c'est les proverbes de Salomon. Ensuite, on a les paroles de Salomon à propos de la valeur de la sagesse, après l'introduction des sept premiers versets, depuis le verset 8 du premier chapitre jusqu'au verset 18 du chapitre 9. Ensuite, on a en tant que tel les proverbes de Salomon, du chapitre 10 au chapitre 22, verset 16. Et puis après, si on prend 22, verset 17, il nous est précisé qu'il s'agit, à partir de ce stade-là, de proverbes des sages. Et puis ces sages sont pas identifiés, c'est des paroles de sages qui ont été ainsi ajoutées aux proverbes. Depuis, ça dure jusqu'à la fin du chapitre 24. Et puis ensuite, on arrive à nouveau aux proverbes de Salomon, mais qui ont une particularité, parce que le texte nous précise qu'ils ont été recueillis par les gens d'Ézéchias. Donc, c'est des proverbes qui ont été rédigés par Salomon lui-même, mais rassemblés plus tard par les gens d'Ézéchias. Ézéchias, évidemment, c'est le roi de Juda, qui régna de 729 à 686 avant Jésus-Christ, soit plus de 200 ans après la mort de Salomon. Donc, les proverbes de Salomon, qu'il avait sans doute écrit ou dit plus de 200 ans avant, ont été rassemblés encore, des proverbes supplémentaires ont été rassemblés par ces gens d'Ézéchias après la mort de Salomon, et ils les ont aussi ajoutés au livre. Ça veut dire que la période, on verra plus tard, mais la période de rédaction du livre, ça n'a pas été écrit juste en un coup. Chapitre 30, les paroles d'Agur. Est-ce que c'est un Israélite ou un Arabe? Beaucoup de, plusieurs commentaires à ce sujet. C'est difficile à dire. Certains disent même que c'est un autre nom que Salomon a pris pour écrire cette partie-là. Bon, pour ce qui me concerne, je suis incapable de trancher sur cette question. Il y a des commentaires sérieux qui présentent les différentes possibilités. Et la même chose pour Lemuel. Est-ce que c'est de nouveau un Israélite ou est-ce que c'est un Arabe? Ou est-ce qu'encore c'est un autre nom que Salomon a pris pour cette partie-là? On ne le sait pas. Et puis, voilà, il a écrit Lemuel, le chapitre 31. Et puis, ensuite, on a la fin qui est sur la femme vertueuse. Donc, Salomon est l'auteur de la plupart des proverbes. Et ce n'est pas étonnant, parce que si on lit dans le premier livre des rois, il nous est dit quelque chose à propos de Salomon qui est extraordinaire et que je vous propose de relire au chapitre 4 de 1 Rois. On voit cela au chapitre 4 et au verset 29. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et un cœur large comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Et il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrakites et Kémon et Calcol et Darda et les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations alentour. Et il proféra 3000 proverbes, et ses cantiques furent au nombre de 1005. Et il parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Et il parla sur les bêtes, et sur les oiseaux, et sur les reptiles, et sur les poissons, et de tous les peuples. On venait pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Quel homme sage que ce Salomon! Mais j'aime beaucoup cette introduction du verset 29 qui nous dit « Et Dieu donna ». C'est Dieu qui a donné cette sagesse à Salomon. Salomon a écrit donc 3000 proverbes. Le livre des proverbes en lui-même en contient 513. Donc ça veut dire qu'il y en a encore toute une autre série qui ne font pas partie du canon biblique et qui ont été des sentences, des proverbes qui ont été donnés par Salomon. Et on voit que sa sagesse devait vraiment être grande, parce qu'on sait de l'Antiquité à quel point, en tout cas dans les livres d'histoire et les manuels d'histoire qu'on a tous étudiés à un moment donné de notre scolarité, à quel point on met en avant la sagesse des Égyptiens, par exemple. Eh bien, on voit que la sagesse de Salomon, nous dit le texte que nous venons de lire, dépassait même celle des Égyptiens et de plusieurs personnes qui sont mentionnés, mais sur lesquels je ne m'arrête pas. Concernant la date de rédaction, le début du règne de Salomon, c'est en 971 avant Jésus-Christ. Donc, c'est certainement à partir de ce moment-là qu'il a commencé à donner ses proverbes, ses sentences, à écrire. Et puis, jusqu'à 686 avant Jésus-Christ, qui est le moment de la mort du roi Ézéchias. Donc ça veut dire que c'est presque 300 ans qui séparent le début du règne de Salomon et la mort d'Ézéchias, pendant lequel ce livre des proverbes a été formé. C'est vrai que nous qui avons la parole de Dieu sous les yeux, on a toujours la peine à croire qu'il a fallu autant d'années, 300 ans, personne de nous va vivre 300 ans. On a souvent de la peine à croire et à penser qu'un livre comme celui-ci a mis du temps à être complété et à être terminé de la manière dont nous l'avons entre les mains. Alors on va parler du contenu. Le livre des Proverbes, c'est un livre d'instruction morale et éthique qui traite de nombreux aspects de la vie. En prenant des exemples, hein, on a vu dans ce texte qu'on a lu des rois que Salomon a parlé sur les arbres, a parlé sur les animaux, a parlé sur plusieurs choses et il a tiré de ce qu'il observait des paroles de sagesse. Et ce livre évoque à la fois, de façon à la fois succincte et clairvoyante, des attitudes, des comportements, des traits de caractère qui sont appropriés ou bien qui ne le sont pas. Le but, c'est que les enseignements de ce livre nous indiquent comment mener une vie sage et respectueuse de Dieu et comment éviter les pièges d'un comportement insensé et impie. Dieu nous a donné ce recueil des trésors de la sagesse divine pour nous apprendre, et c'est le thème de ce soir, à vivre avec sagesse. Je vous invite à retourner dans le livre des Proverbes, et au premier chapitre, avant qu'on voit la suite. Donc on lit au verset 1, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement et la droiture, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Le sage écoutera et croîtra en science, et l'intelligent acquérera du sens pour comprendre un proverbe et une allégorie, les paroles des sages et leurs énigmes. » Et dans ce passage d'introduction au livre des Proverbes, on voit ce qu'on vient de dire au niveau du but du livre. Premier point, on voit que ce livre a été, au verset premier, écrit pour connaître la sagesse et l'instruction. La Bible, en français courant, traduit pour se conduire avec sagesse et accepter les recommandations. Donc, pour connaître la sagesse et l'instruction, c'est un des premiers buts. Le deuxième but, c'est pour discerner les paroles d'intelligence, ou dans la Bible français courant, pour comprendre des paroles pleines de sens. C'est également pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement et la droiture. Dans la Bible en français courant, pour vivre de façon intelligente, en ayant un comportement juste, équitable et droit. Et puis, pour terminer, il nous est dit que c'est pour donner aux simples de la prudence. C'est pour donner des exemples de bon sens aux gens qui sont ignorants, qui sont peut-être au début de leur vie. Et on voit, par exemple, que les premières paroles de Salomon sont pour « mon fils », pour son fils, qui est évidemment plus jeune que lui. On voit aussi qu'il vise particulièrement le jeune homme. Et c'est pour lui donner de la connaissance, nous précise cette introduction, et de la réflexion. Et ce qui est magnifique, c'est que parfois il y a des écrits, et aujourd'hui la publicité qui cible de manière extrêmement précise une catégorie de population. On veut viser toutes les personnes qui vont arriver à la retraite dans moins de 5 ans ou leur proposer des produits bancaires particuliers, par exemple. Ou au contraire, on veut cibler toutes les entreprises qui ont plus de 10 employés et puis qui exportent et travaillent avec l'étranger. Et dans ma profession, par exemple, on cherche à cibler comme ça, suivant ce qu'on peut proposer à nos clients, cibler de manière très précise une population de clients. Mais ici, frères et sœurs, le public visé par les proverbes, c'est pas juste une toute petite catégorie de personnes, c'est un public qui est extrêmement large. Tout le monde est appelé à profiter de la sagesse du livre des proverbes et en être instruit. Regardez à nouveau dans le passage que nous venons de lire, il est proposé cette sagesse aux simples. C'est qui les simples? C'est des gens privés de sens ou ignorants. des gens, peut-être, on pourrait dire, d'une certaine manière, sans expérience. Des jeunes. Mon fils, comme dit Salomon. Il est aussi précisé dans cette introduction, à parler simple, que cette sagesse s'adresse au jeune homme. Mais elle s'adresse même, au verset 5, aux sages. Même les sages, même les personnes qui ont atteint une certaine maturité dans leur vie, peuvent profiter de ces paroles. Même les intelligents y trouveront des directives. L'intelligent, il est aussi mentionné au verset 5 également. Un homme avisé acquérera ainsi l'art de bien se conduire en écoutant ce qu'enseignent les proverbes. Chacun donc, et pas seulement une petite strate de population bien ciblée, peut tirer profit de cette sagesse. Ceux qui n'ont pas beaucoup de sens, les jeunes, mais également les sages et les intelligents qui pourront comprendre le sens caché de certains proverbes, et des propos parfois, je ne vous cache pas que je me suis arrêté sur certains proverbes, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus, toutes les traductions françaises n'utilisent pas toujours les mêmes termes, et puis on se penche dessus, on dit, mais c'est pas toujours facile à comprendre. Les propos énigmatiques, donc, comme le dit le verset 6, de ceux qui enseignent la sagesse. Et puis le verset 7 nous dit quelque chose. À la fin, les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Finalement, les seuls qui ne veulent pas écouter la sagesse du livre des Proverbes, ben c'est les imbéciles. La Darby traduit ici et là par les fous, la Bible du Semeur par les insensés. Eh bien, ceux-ci, qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Et j'espère que dans 30 ou 40 ans, il me sera donné d'être toujours à l'écoute de la sagesse de Dieu. Je pense à certains collègues de travail qui, arrivés à quelques années de la retraite, savent tout faire et savent tout sur tout. Vous pouvez leur parler de clients, alors ils vous racontent le CV du client de A à Z, et puis ils vous racontent l'histoire de la banque de A à Z, etc. Et il n'y a jamais de la place pour recevoir un minimum d'instruction de qui que ce soit, de plus âgés qu'eux encore, ou de personnes. Et c'est vrai que je crois que c'est assez humain et peut-être un peu masculin, arriver à un certain âge, de penser qu'on sait tout, et puis qu'on n'a pas besoin de sagesse supplémentaire. Eh bien, frères et sœurs, si on lit bien cette introduction, on constate que même les personnes sages et intelligentes arrivent à tirer profit de cette sagesse qui nous est ainsi présentée. Soyons donc enseignables, quel que soit notre âge. Concernant le style littéraire, le mot proverbe veut dire « mazal », ce qui signifie « être comme » ou « être comparé à ». Le livre des Proverbes comporte le plus souvent des maximes d'un seul verset, un seul verset qui donne une maxime, mais parfois des discours un petit peu plus longs. Le livre des Proverbes, il est rédigé entièrement dans un style poétique, et le trait structurant et dominant de la poésie hébraïque s'appelle le parallélisme. À savoir le fait qu'en général, les deux lignes de cette maxime qu'on a dans nos Bibles, qui sont souvent sur deux lignes, d'un vers, elles sont parallèles l'une à l'autre. Parfois même, on trouve trois lignes, quatre ou six. Et sans entrer dans trop de détails, il y a plusieurs types de parallélisme. Il y a le parallélisme qu'on appelle synonymique, c'est-à-dire qu'on donne un premier élément, et le deuxième élément est relativement synonyme pour premier. Il y a des parallélismes qu'on appelle antithétiques, ça veut dire que la première phrase évoque un élément, la deuxième phrase évoque son contraire. Il y a des parallélismes qu'on appelle emblématiques ou comparatifs. On compare une chose avec une autre. Ou enfin, synthétiques, c'est-à-dire complémentaires. On donne une première maxime et on ajoute une autre idée qui renforce ou développe la partie de la maxime supérieure. Donc ça, c'est particulier à la poésie juive. Donc la deuxième ligne développe la pensée de la première ligne, la complète, la définit parfois, la souligne, l'approfondit, l'élargit, ou encore en exprime le contraire, ou une autre façon de voir, ou bien encore une contrepartie. Alors, je prends comme exemple Proverbe 14, verset 22, qu'on va lire ensemble. Proverbe 14, verset 22. Ceux qui machinent du mal ne s'égarent-ils pas? Mais la bonté et la vérité sont pour ceux qui méditent le bien. Une première question, et puis un parallélisme antithétique ou avec un mais. On introduit une pensée contraire. Pour terminer cette introduction, j'aimerais donner quelques citations de personnes qui ont, notamment de Billy Graham, qui a dit des choses très intéressantes et qui avait une habitude très intéressante au sujet des proverbes. Pendant presque toute sa vie, Billy Graham, pour ceux qui l'ont lu, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement, il disait qu'il lisait chaque jour 5 psaumes et un chapitre des proverbes. Le premier pour apprendre à l'entendre avec Dieu, 5 psaumes, et le second, les proverbes, le chapitre des proverbes, pour apprendre à m'entendre avec mon prochain. Un site chrétien rapporte qu'un avocat avait pris l'habitude de lire un chapitre du livre des proverbes chaque jour du mois. Le livre compte 31 chapitres. De façon à profiter de la sagesse divine et de façon à préserver l'éthique dans son travail. Voilà une belle manière de faire. Et puis, si modestement je peux ajouter deux mots concernant mon expérience, il m'arrive assez souvent de devoir subir ou écouter avec plus ou moins de profit des discours lors d'événements de chambres de commerce ou d'inaugurations d'usines et autres, soirées du personnel. Et puis souvent, les orateurs bien avisés cherchent à mettre un proverbe ou une maxime dans leur discours. Et puis, il y a des phrases de sagesse que les gens aiment bien ressortir, et si je peux vous en citer une qui ressort assez régulièrement lorsque on parle d'objectifs et de l'année à venir ou de l'année en cours, on cite volontiers le proverbe africain qui dit « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». J'ai même lu avec profit plusieurs fois un philosophe que j'apprécie qui s'appelle Luc Ferry, donc ancien ministre français de l'éducation, dont j'ai apprécié l'analyse sur la déconstruction des valeurs morales. Il pose un regard juste sur la déconstruction des valeurs morales, mais malheureusement il définit la philosophie comme une doctrine du salut sans Dieu. Ah, c'est là que le bas blesse. Et il dit que la philosophie nous promet bien la même chose, passer par la foi et par un autre pour être sauvé, mais elle nous assure que nous pouvons y arriver par la elle nous assure que nous pouvons arriver à ça finalement par la raison et par nous-mêmes. Que cela sonne creux. J'aime la parole de Dieu et je pense que vous aussi. Parce qu'au-delà de ces maximes un petit peu faciles, de ces pensées philosophiques qu'on ressort ici et là, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Frères et sœurs, si on cite un proverbe de la parole de Dieu, c'est comme une graine qu'on plante, une graine qui produira son fruit en son temps. C'est la parole de Dieu vivante et permanente, bien plus que celle des philosophes actuels. Passons au juste et au méchant. Et arrêtons-nous et dressons le portrait du méchant. Et je vous invite pour cela à lire Proverbe 6, versets 12 à 19. Celui qui marche, la perversité dans sa bouche est un homme de Bélial. un homme inique. Il cligne de ses yeux, il parle de ses pieds, il enseigne de ses doigts. Il y a des pensées perverses dans son cœur. Il machine du mal en tout temps, il sème des querelles. C'est pourquoi sa calamité viendra subitement. Il sera tout à coup brisé et il n'y a pas de remède. L'Éternel est six choses, et il y en a sept qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains, la langue fausse et les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui machine des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. L'homme inique, c'est un homme de malheur. Parfois traduit ainsi, c'est un méchant, c'est un homme de mal. Ou parfois même traduit par l'homme de Bélial. Ça veut dire, c'est une expression employée pour désigner des hommes pervers, on voit ça en 2 Corinthiens 6, verset 15, et en particulier, Bélial s'applique à Satan qui personnifie tout ce qui existe de mal. Et puis, ce premier passage que nous avons lu du verset 12, au verset 15, j'aime bien, William MacDonald nous dit, c'est le parfait portrait de l'arnaqueur. Alors, quel est le portrait de l'arnaqueur? Verset 1, il marche avec la perversité ou la fausseté dans sa bouche. Son apparence est trompeuse, séductrice. Son langage corporel contredit ses paroles. Il a la perversité dans la bouche, mais il a un langage tellement rassurant corporel. Il cligne des yeux. Vous avez déjà vu quand on essaie de vous vendre quelque chose, ou bien quand on essaie de vous dire bonjour un petit peu faussement, et puis on cligne des yeux. Ou bien on parle de ses pieds, parce que voilà, un peu de cinéma, on parle du pied, ou bien on fait un geste quelconque. Il enseigne de ses doigts, on fait des grands gestes pour appuyer le discours. Et puis ça met les gens en confiance. Mais son cœur, est corrompu. Il révèle sa nature. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a des pensées perverses dans son cœur. Il machine du mal en tout temps. Il manigance, il médite du mal. Cela fait partie de sa personne, de réfléchir à faire le mal, manigancer, méditer. Et puis il fait quelque chose qui est terrible, c'est qu'il sème des querelles, il suscite des querelles là où il est placé. Et c'est pour nous, évidemment, ce passage un avertissement à ne pas nous laisser abuser par son apparence. Ça paraît quelqu'un de bien qui présente bien dans son langage corporel, mais qui dans ses paroles dit des choses perverses, fausses. Sa fin est certaine, nous apprend la fin de ce passage, il sera tout à coup brisé et il n'y a pas de remède. Soit à cause des conséquences naturelles de ses actions, les gens qui sont méchants, ils se mettent en danger, et puis ils peuvent plus facilement avoir, surtout de ce temps-là, on imagine bien, une fin un peu précipitée. Et Galates 6, verset 7 nous rappelle que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ou parce que Dieu interviendra éventuellement directement. Et dans le prolongement de ce parfait portrait de l'arnaqueur, du verset 12 au verset 15, on a les versets 16 à 19. Et ces versets... Ici, le rédacteur des Proverbes prend soin de nous préciser que l'Éternel, et c'est une formule qui est de temps en temps utilisée dans les Proverbes et qui est intéressante, haït six choses et même sept qui lui sont en abomination. Alors, c'est intéressant de voir que plusieurs des caractéristiques qui sont ici évoquées dans ce verset, dans les versets 16 à 19, plusieurs de ces traits de caractère correspondent à l'arnaqueur qu'on a décrit en dessus. Cette expression, donc, l'Éternel est si chose et même sept lui sont en abomination, est utilisée aussi deux autres fois dans le chapitre 30 des Proverbes. Et c'est une façon de dire les choses pour dire que, bien que précise la liste qui est donnée, elle n'est pas exhaustive. Il pourrait y en avoir une huitième ou une neuvième ou une dixième, et plus encore. Puis, elle signifie également, et ça c'est très intéressant, que la septième des choses mentionnées est la pire de toutes. Elle veut attirer notre attention sur la septième chose. Et la septième chose ici, c'est celui qui sème des querelles ou la discorde entre des frères. Il est en abomination à l'Éternel. Terrible. Frères et sœurs, ça nous reprend. Celui qui sème des querelles et la discorde entre des frères, c'est la pire des sept choses qu'on vient de voir. Les yeux hautains, celui qui garde les autres de haut, la langue fausse, celui qui répond des mensonges, les mains qui versent le sang innocent, on comprend bien ce qui tue, le cœur qui machine des projets d'iniquité ou le cœur qui machine des projets coupables, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les personnes qui aiment le mal et qui recherchent de faire des choses mal, le faux témoin qui profère des mensonges, mais il y a une septième chose qui est pire que tout, c'est semer la querelle entre les frères. Eh bien, que cela nous interpelle, nous qui vivons dans la famille de Dieu, de ne pas être de ceux qui sèment les querelles et la discorde entre les frères. Quelques caractéristiques des méchants. Alors, je vais simplement vous lire la référence et vous citer le texte. Le méchant, il désire le mal. Proverbe 21, verset 10 nous dit « L'âme du méchant désire le mal ». Désirer le mal, c'est quelque chose. Son prochain ne trouve pas grâce à ses yeux. Même son ami ne trouve pas grâce aux yeux du méchant. Le méchant, il prépare et recherche le mal. 16:27 nous dit « L'homme de Bélial creuse à la recherche du mal. Et sur ses lèvres, il y a comme un feu brûlant ». C'est un homme méchant qui mijote le mal et ses paroles sont comme un feu dévorant. Recherche le mal, ici, en hébreu, il y a la conjonction, le terme « qual ». Et ça veut dire un mode participe actif. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui cherche le mal, qui cherche à le faire, qui cherche vraiment à être actif dans le mal. Il est déterminé à faire le mal. 16, verset 30, nous dit « Celui qui ferme ses yeux pour machiner la perversité, celui qui se pince les lèvres, accomplit le mal. » J'ai bien aimé ce terme, « se pincer les lèvres ». J'ai déjà eu cette réaction. Il va voir ce qu'il va voir. Eh bien voilà, c'est la détermination à faire le mal, nous dit les Proverbes. Chapitre 24, verset 8, « Il médite et projette de faire le mal. Celui qui pense à mal faire, on l'appellera intrigant, c'est-à-dire plein de malice et de crime. » Mais ce méchant, Dieu un jour le jugera. 17, verset 11 nous dit « L'inique ne cherche que rébellion, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. » Un jour, c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. L'ange de la mort, parce que là, le messager, si vous regardez le terme qui est utilisé dans le texte biblique, il est fait référence à un ange. Et l'ange de la mort viendra un jour faucher la vie du méchant. Dieu intervient. Lui-même violent, il sera traité violemment par Dieu, le juste juge. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités à nous garder des méchants. Proverbe 24, versets 1 et 2 nous dit « N'envie pas les hommes qui font le mal et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la destruction et leurs lèvres parlent de tourment. » Ne les envie pas, non. Ne les envie pas et ne cherche pas leur compagnie. C'est un avertissement pour nous. Et Proverbe 1, verset 15 nous dit, mon fils, ne fais pas route avec eux. Retiens tes pieds de leur sentier. Ici, c'est les pêcheurs dans le contexte. Ne te mets pas en route avec eux. N'emprunte pas le même chemin qu'eux. Et ça, je crois que c'est des avertissements pour nous. Mais on a vu le premier chapitre et le verset 15. Ces avertissements, Salomon les adresse particulièrement à son fils, comme nous pouvons certainement aussi particulièrement les adresser à des personnes plus jeunes et ignorantes. Nous arrivons maintenant à cette section sur le contraste entre le juste et le méchant. Alors je vous propose un tableau chaque fois qui n'est pas forcément toujours tout facile à lire. J'essaie de faire le mieux possible en PowerPoint, c'est pas facile de faire des tableaux. Donc ici, vous avez cette colonne, c'est les justes, vous avez les méchants, hein, et on verra le contraste, et puis la référence biblique du proverbe concerné. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant leur être ou leur personne? On va regarder d'abord leur pensée. Les justes, leurs pensées sont juste jugement. Elles sont orientées vers ce qui est droit. Celles des méchants, les desseins des méchants sont fraude. Les intentions des méchants, elles cherchent la fraude. Leur désir, celui des justes, il n'est que le bien. Waouh ! Celui des méchants, l'attente des méchants, c'est la fureur. Alors les aspirations du juste, elles tendent vers le bien, c'est quelque chose de magnifique, mais les méchants, eux, ils ne peuvent espérer que la colère. Qu'est-il dit au sujet de leur conscience? Les justes sont pleins d'assurance comme un jeune lion. Ah, les jeunes lions, qui veulent facilement attaquer telle et telle autre bête et qui pensent qu'ils sont forts. Et ils le sont. Alors, les justes, ils sont pleins d'assurance comme ce jeune lion parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils sont pleins d'assurance. Par contre, le méchant se sauve quand personne ne le poursuit. La conscience coupable du méchant, elle le reprend. Et même si personne ne le poursuit, même si personne n'est derrière lui, il s'enfuit. Parce qu'il est conscient de ses méfaits. Le résultat de leur méditation, pour le juste, la bonté et la vérité sont pour ceux qui méditent le bien. Méditer le bien, frères et sœurs, produit du bon fruit. S'arrêter, réfléchir à ce qui est bon, à ce qui est bien. S'arrêter avec la parole de Dieu, méditer le bien, produit des bons fruits. Ceux qui machinent du mal ne s'égarent-ils pas? Au contraire, machiner le mal comme les méchants conduit immanquablement à l'égarement. Toujours au sujet des justes et des méchants, leur rapport à Dieu. Le juste aime la loi. La loi ici, le terme hébreu utilisé, c'est Torah, la loi mosaïque. Et la loi, ceux, les justes, ils gardent la loi et ils font la guerre. Ceux qui gardent la loi leur font la guerre, c'est-à-dire aux méchants. Ceux qui abandonnent la loi louent les méchants. La loi sert de protection. C'est une protection à la moralité du juste. Et ceux qui s'éloignent de la loi, ben évidemment, que vous... Quand vous n'accomplissez pas ce que demande une loi, qu'elle soit la loi mosaïque ou toute autre loi, ben vous préférez être ceux qui sont contre cette loi. Si vous trouvez que 8 ans à l'heure contre les localités, c'est pas bien, c'est pas assez vite, ben vous êtes avec ceux qui préfèrent que ça soit 120 ou 130. Et puis vous êtes, du coup, contre la loi. Au sujet de la crainte de Yahvé, eh bien, la crainte de l'Éternel est la joute des jours pour le juste. c'est-à-dire qu'elle produit des fruits bénéfiques dans la vie du juste. C'est vrai qu'il faut bien dire que c'est pas une promesse qui nous est faite que notre vie ira à 95 ans. Mais les proverbes sont du reste pas un recueil de promesses, mais de principes généraux. Et c'est vrai que la crainte de l'Éternel allonge les jours. Ne serait-ce que pour des questions d'hygiène ou de moralité, une vie sainte conduit plus facilement à avoir une vie saine. Par contre, de l'autre côté, pour les méchants, les années des méchants seront raccourcies. C'est une joie pour le juste de pratiquer ce qui est droit, mais c'est la ruine pour les ouvriers d'iniquité. Même pas envie de pratiquer cela. Quant à leur rapport réciproque, le juste a le méchant en horreur et inversement, celui qui est droit dans sa voie, l'abomination des méchants. L'homme inique est l'abomination des justes. Leurs actions, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il se préoccupe des pauvres. Le juste prend connaissance de la cause des pauvres, de la cause des pauvres. Le méchant, de son côté, ne s'y intéresse pas. Le méchant ne comprend aucune connaissance. Il ne s'y intéresse pas. Un verset pour nos frères agriculteurs. Le juste prend soin de son bétail. C'était la ressource nécessaire à la vie de ce temps-là. Eh bien, le juste regarde à la vie de sa bête. Il veille au bien-être de ses bêtes. Mais le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Les entrailles des méchants sont cruelles. Le cœur des méchants est cruel envers ces mêmes bêtes. Voilà donc quelques versets qui nous parlaient du juste et des méchants et qui nous montraient dans leur être, dans leurs pensées, dans leurs actions, dans leur rapport à Dieu, la différence qu'on pouvait voir entre un juste et un méchant. Et finalement, une question importante que nous devons nous poser, pourquoi vivre justement? Pourquoi est-ce que les proverbes nous invitent à vivre justement? Et on va voir ça ensemble. Et je vous propose qu'on lise, là on va lire quelques versets pour chacun des points. On va lire le proverbe 15, au chapitre 15 et au verset 9. Pourquoi vivre justement? La voie du méchant est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Pourquoi vivre justement? Parce que le Seigneur aime les justes. Il aime celui qui poursuit la justice. Il aime le juste. Proverbe 12, verset 2 nous dit « L'homme de bien obtient la faveur de par l'Éternel, mais l'homme qui fait des machinations, il le condamne. » Alors, la première raison pour laquelle les proverbes nous invitent à vivre justement, c'est parce que le Seigneur aime les justes. Bon, plus généralement, c'est la crainte de Dieu, c'est le désir de respecter ce que Dieu nous demande. Mais pourquoi vivre justement également? C'est parce qu'une vie juste est source de stabilité. Chapitre 10, verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi le méchant n'est plus, mais le juste est un fondement pour toujours. Bible du Semeur traduit « Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. » Et Proverbe 12, verset 3 nous dit « L'homme n'est point affermi par la méchanceté, mais la racine des justes n'est pas ébranlée. » Vivre justement, avoir une vie juste, c'est une source de stabilité pour nos vies. Le troisième point que je vous propose, c'est « Parce qu'une vie juste procure la joie. » Au chapitre 29 et au verset 6. Dans la transgression de l'homme mauvais, il y a un piège. Mais le juste chantera et se réjouira. Et le chapitre 13, verset 9 nous dit « La lumière des justes est joyeuse ». Vivre une vie juste, c'est une source de joie, frères et sœurs, que nous avons la crainte de l'Éternel, que nous avons marché d'une manière qui plaît à l'Éternel, que nous avons vu des fruits de ce comportement autour de nous, c'est une source de joie. Et c'est pour ça que le juste peut chanter et se réjouir de son Dieu, mais de cette vie juste, source de bénédiction. Pourquoi vivre justement ? Parce qu'une vie juste permet d'être en bénédiction aux autres. Chapitre 10, verset 16. L'œuvre du juste est pour la vie, et le revenu du méchant est pour le péché. La récompense du juste, c'est d'être une source de vie, traduit la Bible, semeur. Et puis, le proverbe 12, verset 26, nous dit « Le juste montre un chemin à son compagnon. » Une vie juste, frères et sœurs, permet d'être en bénédiction à notre entourage. Magnifique. À notre entourage, évidemment, familial, immédiat, mais aussi à notre entourage plus général. Ici, il est parlé de son compagnon, notamment, de son ami. Et puis enfin, vivre une vie juste, parce qu'une vie juste conduit notre entourage à se réjouir. Chapitre 11, verset 10. La ville se réjouit du bien-être des justes, et quand les méchants périssent, il y a des cris de joie. Je me rappelle cette fameuse scène, lorsque... C'était pas vraiment beau, mais lorsque Saddam Hussein a été tué au bord d'une route, dans sa fuite, les populations qui tiraient à la carabine, qui se réjouissaient parce que ce tyran qui avait été... non, c'était pas Saddam Hussein, c'était le Libyen.
Kadhafi,
merci. Parce que ce Kadhafi qui avait été le tyran vis-à-vis de son peuple pendant des années et qui avait fait périr une quantité de gens impressionnante, eh bien, cet homme était mort, et puis on voyait le peuple libyen alors se réjouir. Bon, c'est alors situation meilleure maintenant que... Et après, ça, c'est encore une autre question à laquelle on ne cherche pas à répondre, mais c'est vrai qu'on peut voir aussi dans la vie actuelle le fait que, oui, quand les méchants périssent, il peut y avoir des cris de joie ici et là, mais, plus important, la ville se réjouit du bien-être des justes. Nous arrivons à notre dernier point, et qui sera également notre conclusion, c'est comment vivre justement aujourd'hui. Frères et sœurs, pour nous, croyants qui sont là sur la terre après la mort et la résurrection de Jésus-Christ et après la formation de l'Église, pendant le temps de l'Église, eh bien, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin d'une justice imputée, parce que l'homme est pécheur. Romains 3, verset 9, nous dit « Car nous avons ci devant accusé, et juifs et grecs, d'être tous sous le péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu, ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles, il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. » L'homme est pécheur. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Constat peut-être attristant alors que nous parlons de vivre justement. Si on continuait la lecture, on va pas le faire, on n'a pas le temps, mais de Romains 3, après le verset 12, on constaterait exactement que plusieurs citations qui sont données des méchants,
correspondent exactement, ou plus ou moins exactement, à ce qu'il est dit des méchants dans le livre des Proverbes. Notamment qu'ils ne craignent pas Dieu, que leur bouche est remplie de mal, et qu'ils sont rapides à verser le sang. L'homme est incapable de se sauver lui-même. Romains 3, verset 20, c'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée ou rendue juste devant lui par des œuvres de loi. Pas possible. L'homme est incapable de se sauver lui-même. Le salut montre comment Dieu restaure sa justice dans chaque homme repentant et croyant. Paul explique dans cette épître aux Romains de quoi nous sommes sauvés. Et contrairement aux idées généralement reçues dans la chrétienté, le but premier du salut, c'est pas de soustraire les hommes à la mort ou à l'enfer. C'est pas ça le premier but du salut. Le but de l'évangile, nous indiquent les Romains, c'est que chaque homme puisse être déclaré juste devant Dieu. Ainsi, le but du salut, c'est de restaurer la justice de Dieu dans chaque être humain. Être sauvé de l'enfer pour aller au paradis, c'est le résultat du salut. Passer de la mort à la vie c'est le moyen que Dieu utilise pour le salut. Être pardonné de notre culpabilité, c'est la cause du salut. Or, les hommes ont expulsé Dieu de leur vie. Et le salut nous apprend précisément comment Dieu restaure sa justice dont chaque homme repentant et croyant. Donc nous avons besoin d'une justice imputée qui ne vient pas de nous. Par qui va-t-elle venir cette justice pour que nous puissions vivre justement? Christ, notre justice. Pourquoi Christ? Parce que c'est le seul juste. 1 Jean 2, verset 1, Jésus-Christ, le juste. Tous les versets que nous avons lus sur les justes dans les Proverbes, nous pouvons dire en quelque sorte que la seule personne qui a été capable de mener cette vie juste, telle que décrite dans les Proverbes, si nous lisons bien les Évangiles, c'est Jésus-Christ. Il a été la démonstration de la justice. C'est le seul juste que la terre n'ait jamais porté. C'est lui, le juste par excellence. Christ est le seul juste. Christ a payé pour nos péchés. Lui est la propitiation pour nos péchés, non pas seulement les nôtres, mais aussi pour le monde entier. C'est la suite de 1 Jean 2. Christ nous a donc rendus justes, ayant donc été justifiés ou rendus justes sur le principe de la foi. Dieu donc nous impute la justice de Christ. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Est-ce que vous vous sentez juste? La justice n'a rien à voir de Dieu, n'a rien à voir avec notre senti, n'a rien à voir avec nos pensées et nos sentiments. Si nous croyons par la foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur, celui qui nous purifie de tout péché, nous sommes déclarés justes par Dieu. Que l'on sente, que l'on le sente ou qu'on ne le sente pas, nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas nos efforts pour mener une vie qui plaise à Dieu qui vont nous permettre de devenir justes. Et c'est le travail de Dieu d'imputer la justice de Jésus-Christ dans chaque croyant. Nous avons reçu ainsi les uns les autres le titre de juste. C'est notre position. Et le travail du Saint-Esprit nous permet de démontrer cette justice dans la pratique de la vie chrétienne. C'est la vie pratique. Ainsi, la justice de Christ est disponible pour tous, sans distinction, sous réserve de la foi. Alors vivre justement. Le livre des Proverbes aborde les choix éthiques de l'homme en remettant en question sa manière de penser et de vivre afin de rendre son quotidien conforme à la vérité divine. Ce livre, celui des Proverbes, nous invite à vivre comme le Créateur l'avait prévu à l'origine. Il
suscite aussi notre réflexion à propos de la crainte de Dieu et de la vie selon la sagesse divine. Ensemble, ce soir, nous avons vu des caractéristiques d'une vie juste, et en particulier celle que Dieu attendait des croyants de l'Ancien Testament, du peuple juif. Comment aujourd'hui pouvons-nous vivre justement? Frères et sœurs, notre position est meilleure que celle des croyants de l'Ancien Testament. Car la justice de Dieu nous a été imputée par la foi en Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous a été donné de manière permanente. Privilège que les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas. On voit que le Saint-Esprit venait à un moment du parfait. Donc, ma responsabilité comme croyant, c'est de laisser l'Esprit agir en moi et produire son fruit magnifique. C'est de laisser la personne de Jésus-Christ, le seul juste, être vue à travers moi, puisque Christ vit en moi. Et vous connaissez bien ce verset de Galates 2, verset 20, qui nous dit « Je suis crucifié avec Christ. » Et je rajoute « Moi, le méchant, dont le cœur irrégénéré n'est pas capable de faire autre chose que le mal. Je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi. C'est Christ qui vit en moi. » Je peux ainsi me réjouir de connaître le juste et de savoir qu'il vit en moi. Et dans la mesure où je le laisse agir en moi, sa justice, sa parfaite manière de vivre sera vue à travers moi. Les proverbes me rappellent ainsi quel genre de vie Dieu souhaite que je vive. Il m'enseigne, et c'était une partie de ce qu'on a vu ce soir, à m'éloigner des méchants et chercher de tout mon cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que je suis un croyant qui vit après la Pentecôte et la réception du Saint-Esprit pour les croyants. Donc m'éloigner des méchants et chercher de tout mon cœur avec l'aide du Saint-Esprit à vivre justement. Je vous mentionne ici quelques ressources qui m'ont aidé dans la préparation de ce message. J'aimerais citer l'art de vivre selon Dieu. C'est en fait un travail qu'Alfred Kuhn a fait de classer les versets des proverbes par thème. Ça nous aide bien, comme c'est parfois un petit peu difficile. Donc il n'y a pas de commentaire, c'est simplement les proverbes qui ont été classés de manière thématique. Et puis l'introduction aux proverbes dans la Bible MacArthur est à recommander, comme évidemment le commentaire biblique du chercheur sur les proverbes.